Bonsoir, comment allez-vous? Les centres de nos villes se vident. Les boutiques ferment les unes après les autres. Mouvement démarré bien avant l'épidémie actuelle. Les habitants font leurs courses dans des centres commerciaux situés en périphérie. Il y a donc des zones où on habite et d'autres où on achète. Aucune de ces deux zones n'est humaine. Cerise sur ce mauvais gâteau, pour passer de l'une à l'autre, il faut avoir une voiture, l'acheter, l'entretenir, la parquer et avoir le permis. Rien de tout ça n'est gratuit. Pourquoi aller en dehors des centres-villes puisque tout y est déprimant? Car tout y est aussi moins cher. Le Monde de lundi dernier nous racontait l'agonie du centre d'Alençon, symbole des villes moyennes. Quand je fais mes courses dans une grande surface, je me dépêche pour sortir de là le plus vite possible. En revanche, quand je fais mes courses dans le centre, j'achète moins, mais toujours utile. Je me fais conseiller, je parle à des humains. Et puis je vais au café où j'échange encore. En grande surface, les enfants crisent. En ville, dans un premier temps, ils sont excédés par le temps qu'on y passe. Puis, découvrent une autonomie réjouissante. Carlos Moreno, architecte, professeur des universités, a « inventé » entre guillemets la ville intelligente et humaine. On l'appelle la ville « quart d'heure », car on va partout en moins d'un quart d'heure. Courses, écoles, médecins, etc. Ça pourrait faire sourire, il a inventé le centre-ville. Oui, mais qui ne serait pas réservé qu'aux riches, pourvu que ça marche.
Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 4 ans et demi. Je voudrais savoir comment les trottoirs sont poussés.
Bonjour. Comment les trottoirs ont-ils poussé? Ricazan, vous avez écrit L'invention de Paris, édité au Seuil. Les oui. Trottoirs, c'est quoi ces trottoirs? Ça a toujours été là?
Ah, pas du tout.
Ah bon, donc elle a raison, ils ont poussé.
Oui, ils ont poussé et ils ont poussé assez tard. Parce que pendant des siècles et des siècles, Paris, qui était resté une ville du Moyen-Âge, n'avait pas de trottoirs, avait des rues pavées avec un grand ruisseau au milieu, qui servait à la fois d'égout et d'écoulement pour les eaux de pluie. Et d'ailleurs, quand il pleuvait trop, ça s'écoulait mal, le ruisseau devenait très large et infranchissable. Alors, il y avait des gamins, c'était une spécialité des petits Savoyards, qui jetaient par-dessus le ruisseau transversalement des planches. Ça s'appelait des ponts tremblants, parce que c'était pas trop stable. Et ils faisaient payer un péage aux gens qui voulaient traverser. Les petits Savoyards, ils avaient deux spécialités. Il y avait ça... Et puis, ils étaient ramoneurs aussi. Parce que dans les équipes de ramonage, il y avait toujours un gamin pour monter dans les cheminées.
Faut pas être
noir.
Gros, quoi.
Faut pas être gros, voilà, c'est ouais. Ça. On prenait des petits assez malingres.
Pour mettre là-dedans. Donc, Paris n'avait pas de trottoir. Non. Donc, ça devait pas sentir très bon.
Non. Il y a une phrase magnifique qui est à la première page du Père Goriot de Balzac, où il parle de Paris. Il dit « Cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue. » D'ailleurs, les Parisiens étaient furieux parce que Londres, qui avait brûlé à la fin du XVIIe siècle, avait été reconstruite comme une ville moderne avec des trottoirs. Et les Parisiens savaient très bien que les Londoniens, eux, marchaient pas dans la boue jusqu'aux genoux, ils marchaient sur des trottoirs. Donc, ils ont protesté jusqu'à ce que vers 1800, on se mette à construire des rues avec des trottoirs. Et sous l'Empire, il y avait trois rues de Paris avec trottoirs. La rue de l'Odéon, devant le théâtre, parce que c'était un quartier moderne. La rue de Louvois devant la Bibliothèque nationale et la troisième, je ne me rappelle plus. Enfin, trois rues. Non,
pas beaucoup. Sacrés travaux, cela dit, de faire des trottoirs.
Il fallait repenser complètement ce qu'était une rue quand on fait des trottoirs. Même la largeur, enfin, c'était très compliqué. Je veux dire, ce n'est pas un simple petit ajout comme ça, comme on planterait un buisson décoratif.
Qu'est-ce qui roulait dans Paris à cette époque-là?
Des carrosses, des calèches, des charrettes. C'était très encombré, Paris.
Faut de la largeur.
Le carrefour entre le boulevard Montmartre et la rue Montmartre s'appelait le carrefour des écrasés. Donc, voilà. On risquait sa vie. Il ne faut pas s'imaginer du tout Paris, disons, sous Napoléon, ou il y a 150 ans, comme une ville tranquille, silencieuse et calme. C'était un tohu-bohu, très bruyant, très encombré, assez dangereux et plein de boue. Voilà.
Vous dites le carrefour des écrasés, je pense à une chose, c'est que c'est finalement pas très facile d'arrêter un cheval, plus difficile que d'arrêter une voiture.
Bien sûr. Et passer sous les sabots et les roues d'un cheval, c'est assez mauvais pour la santé.
Pour un bonhomme, ça doit
pas
être top.
Ouais. Oui. Et c'est d'ailleurs une des raisons du succès des passages couverts, où on pouvait flâner tranquillement, les pieds au sec, et sans risquer de se faire écraser.
Mais alors moi, je m'imaginais que les gens chics, bien entendu, pas tous les Parisiens, avaient des toilettes très chics et très sophistiquées. On voit des tableaux avec des belles dames dans le jardin des Tuileries. Donc c'est
jamais
pas
à
vrai.
Pied.
Jamais à pied.
Jamais à pied.
Elles étaient crottées jusqu'au genou, sinon.
Oui.
Mais chérie, quand vous faites la gueule maintenant, parce qu'on vous envoie vous coucher tôt pour aller à l'école, pensez bien que les enfants d'autrefois n'allaient pas à l'école. Vous vous rappelez de ce que vient de dire Eric Hazan. Les plus petits, les plus malingres, les moins chanceux, travaillaient, ils allaient ramonner les cheminées. C'était pas très enviable comme sort.
Bonjour, je m'appelle Périne, j'ai 11 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi le sommeil est capital. Merci, au revoir.
Pourquoi le sommeil est capital, docteur Frédéric Salmane, auteur de Votre santé sans risque, édité chez Albin Michel. Vous êtes cardiologue et nutritionniste.
Oui, ben, c'est très important parce que le sommeil, c'est le moment où on régénère, où on se répare et on fait une véritable cure détox pour notre organisme. Alors, première question, combien de temps il faut dormir? On va dire 7 à 8 heures, c'est bien. Si on dort moins, il y a juste 3% des gens qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil. Pour le reste, c'est 7 à 8 heures. Et il y a une étude qui est sortie qui montre que si on dort plus de 9 heures et qu'on fait moins de 150 minutes d'effort physique par semaine, de gym par exemple, on multiplie par 4 le risque de mort subite. Donc, dormir suffisamment, pas trop, c'est vraiment la bonne dose. Maintenant, il y a la qualité du sommeil qui compte énormément. Et beaucoup de personnes se disent « je dors pas bien, je prends des comprimés ». Ça, faut éviter, parce qu'en plus, il y a certains comprimés où il y aurait des liens avec la maladie d'Alzheimer. Donc, en pratique, je conseille des moyens simples. Je n'aurai pas le temps de tous les expliquer pour dormir naturellement. Je vais en donner deux. D'abord, il faut le noir complet dans la chambre pour bien dormir. Il suffit d'une petite diode lumineuse de rien du tout pour que le sommeil soit perturbé en qualité. Si on ne peut pas faire le noir complet dans la chambre, très simplement, mettez un masque d'avion et vous dormirez comme un bébé.
Et c'est pas mal pour ceux qui dorment en couple. Comme ça,
absolument, on ne dérange pas l'autre, voilà. On ne casse pas les pieds à l'autre et on dort bien. Le deuxième conseil, on va s'arrêter là après, c'est que c'est le froid. Le froid fait dormir.
Ah bon ?
Oui, absolument. Si on prend une douche froide avant de dormir, ça diminue la température du corps, on s'endort plus facilement. Ou alors, le matin, mettez votre oreiller dans un sac plastique au frigo, vous endormez sur un oreiller, mettez un petit peu de lavande en plus, ça aide, et on s'endort beaucoup plus facilement. Dormez nu, c'est important, que la chambre soit fraîche, pas chauffée. Et avec ça, avec le froid et l'obscurité, voilà les deux premiers conseils. Il y en a bien d'autres pour passer des nuits naturellement réparatrices et être le matin en pleine forme.
Alors vous avez dit le noir complet, puisque nous avons beaucoup de jeunes auditeurs, cela dit, si on a peur, ça empêche probablement de dormir. Si on a, pour une raison ou une autre, on a peur du noir, ça ne doit pas être génial. Il vaut peut-être mieux mettre une petite lumière, quitte à ce que ça gêne le sommeil, mais qu'on puisse quand même voir si on a besoin, non ?
Qui ont peur du noir, mettez dans ce cas-là une lumière plutôt rouge que bleue, parce que bleu va plutôt stimuler. Et je vous donne un autre petit conseil, quand le matin vous vous réveillez, ne vous rendormez pas, vous traînerez toute la journée. Il faut se réveiller et se lever, il ne faut pas se rendormir après.
Ah, c'est vrai que le sommeil, le deuxième sommeil du matin, on fait des rêves un peu bizarres.
On est cassé, on est toute la journée complètement dans le brouillard.
Donc, hop, debout.
Hop, debout, on y va.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez également demandé pourquoi les œufs de serpent sont mous, si les microbes ont un produit toxique pour nous rendre malades et si après avoir été élu, un président de la République peut changer d'avis. Sugar. Of loving you, I just can't believe it's true. c'était The Archies, Sugar Sugar. J'ai lu plusieurs fois que le sucre serait plus toxique pour l'organisme que l'alcool. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est probable, c'est que ceux qui ont écrit ça n'ont jamais vécu avec des alcooliques.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question aux petits bateaux, vous faites le 01 56 40 43 57. Soyez détendus, prenez votre temps, c'est un répondeur.
William, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir si, après avoir été élu un président de la République, peut changer d'avis. Merci de me répondre.
Bonsoir William. Bruno Daugeron, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris Descartes, co-directeur du blog Ius Politicum et auteur de la notion d'élection en droit constitutionnel chez Dalloz. C'est amusant ce que demande William. Intéressant.
C'est intéressant, mais ce n'est pas une question simple, William. Alors, pour essayer de te répondre le mieux possible, il faut quand même que je précise un peu ta question, que je cerne les termes. Il faut tout simplement savoir ce que tu entends par changer d'avis, parce que ça veut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, ça peut vouloir dire, est-ce que le président de la République, une fois qu'il a été élu, peut décider de renoncer ? Ce serait très surprenant, après avoir tant bataillé, avoir eu tant de difficultés à être élu président de la République. Le président Mitterrand et le président Chirac s'y sont repris à 3 fois. Donc c'est souvent le sommet d'un long parcours. C'est étonnant qu'il change d'avis et qu'il décide d'arrêter, mais juridiquement, il a le droit.
Sans donner de raison.
Sans donner de raison. Ce serait pas très bien compris, mais sans donner de raison.
Ouais, il peut dire « j'ai plus envie ».
Il peut dire « j'ai plus envie ». Il peut également tomber malade, ça a failli arriver au président Mitterrand quand il a appris qu'il était malade au début de son mandat. Alors lui, il n'était pas du tout décidé à démissionner, mais quelqu'un d'autre aurait été à sa place pendant qu'il était malade. Venant d'être élu, il aurait pu décider de partir.
Oui, mais il n'est pas obligé de fournir un certificat médical, par exemple.
Ah non, il n'est pas obligé de fournir un certificat médical. On est libre parce que les fonctions publiques sont des fonctions qu'on peut exercer tout à fait librement. Mais je veux simplement préciser sur l'autre sens, changer d'avis, et là ça ouvre des perspectives beaucoup plus larges, tu voulais peut-être dire changer d'avis au sens de changer d'idée. Et là c'est une question beaucoup plus complexe, William, parce que je te dirais que oui aussi, le président de la République peut changer d'avis et ne pas exercer exactement la politique qu'il a promis. Mais là, ça pose des problèmes de confiance beaucoup plus importants, et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait régulièrement au président de la République, c'est-à-dire qu'ils changent d'avis en cours de route par rapport à ce qu'ils avaient annoncé.
Ont-ils changé d'avis ou ont-ils menti, Bruno Daugeron ?
Je ne pense pas forcément qu'ils ont menti. Peut-être certains d'entre eux le feront, mais je pense surtout qu'ils sont confrontés à la réalité de la situation qui est parfois plus complexe, plus difficile que ce qu'ils pouvaient annoncer dans leurs promesses de campagne. Alors il n'est pas interdit de penser aussi, hélas, que certains d'entre eux, lorsqu'ils annoncent certaines promesses, savent pertinemment bien qu'ils ne le feront pas.
C'est ça que j'appelle mentir.
Alors oui, ça pourrait faire partie de, hélas, des travers. Vous savez, il y a un adage du droit civil qui dit « en mariage, trompe qui peut ». Eh bien, on a envie de dire aussi qu'en politique, trompe qui peut. Trompe qui peut, il y a un homme politique assez connu qui est mort désormais et qui disait qu'en politique, les promesses, de toute manière, n'engageaient que ceux qui les recevaient.
Des promesses, toujours des promesses. Vous trouverez les ouvrages du professeur Bruno Daugeron sur le site des Petits Bateaux. Pascal Cossard est professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, spécialisée en microbiologie cellulaire. Elle est venue répondre à cette question des petits bateaux avant le début de l'épidémie.
Je m'appelle Sabah, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir si les microbes ont un produit toxique sur eux pour nous rendre malades. Merci, au revoir.
Alors, tu poses une question, Sabah, qui est quand même assez large. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce que j'aimerais te dire. Quand tu parles de microbes, tu parles de beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis sûre que tu ne sais pas que quand on parle de microbes, on parle de choses ou de micro-organismes que tu ne peux pas voir avec tes yeux, toi. Tu vas être obligé de regarder avec un microscope. Donc, tu prends ton microscope et tu vois soit des bactéries, soit des amibes, soit des petits parasites, ou éventuellement ce que tu crois être des microbes, mais qui sont des virus, c'est-à-dire des organismes qui se multiplient à l'intérieur des cellules. Donc, est-ce qu'ils ont, tous ces microbes, des produits toxiques sur eux pour nous rendre malades? Je parlais des bactéries, par exemple. Les bactéries, elles n'ont pas des produits toxiques sur elles, mais en fait, si elles se multiplient, par exemple, dans ta gorge, elles peuvent cracher, sécréter une toxine qui va produire une douleur, une inflammation de la gorge. Et c'est ce qui se passe dans le cas, par exemple, des streptocoques. Il peut y avoir des bactéries qui rentrent dans les cellules et qui se multiplient. Et elles sont toxiques parce que rien que par le fait qu'elles se multiplient et qu'elles ennuient, qu'elles dérangent les processus normaux de la cellule. Dans le cas des virus, c'est exactement ça. Les virus rentrent dans les cellules, se multiplient et empêchent la cellule de fonctionner. Donc, il n'y a pas vraiment des produits toxiques sur eux, mais soit c'est parce que ces microbes dérangent les cellules, soit parce que les bactéries sécrètent réellement ce qu'on appelle des toxines.
Des toxines, ah oui, c'est peut-être ça qui porte à confusion. C'est ce côté toxine toxique.
Oui, alors en fait, les microbes rendent malades par des tas de processus différents. Alors soit un microbe rend malade parce qu'il produit une toxine, par exemple le choléra est dû à un vibrion choléré, et essentiellement la maladie est due au fait que cette bactérie produit une toxine. Donc cette toxine est extrêmement puissante et elle est pratiquement responsable de toute la maladie. Mais il y a des tas d'autres microbes qui ont différents processus pour faire qu'à la fin, il y a une maladie. Et je parlais des streptocoques. Les streptocoques ont une toxine qui est responsable de la maladie, mais il y a d'autres choses aussi. Le fait que sur leur surface, elles aient des composants qui provoquent une inflammation de la muqueuse, par exemple.
C'est intéressant d'entendre parler des microbes en dehors de la Covid-19. Ce n'est pas parce que cette épidémie est arrivée que toutes les autres maladies ont pour autant disparu, hélas. C'était Ichon et l'OVNI, noir ou blanc. Plus je vieillis, plus j'ai tendance à croire que ce serait plutôt gris. Il y a quelques semaines, plusieurs dizaines de bébés tortues ont éclos sur la plage de Fréjus, dans le Var. La maman était venue pondre début juillet. Et oui, on vous raconte que les enfants naissent dans les roses ou dans les choux, mais il y en a beaucoup qui naissent dans les œufs.
Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 6 ans. Pourquoi les œufs des serpents sont mous ? Merci de me répondre.
Pourquoi les œufs des serpents sont mous ? Déjà, je trouve ça stupéfiant que les serpents fassent des œufs. Docteur Samuel Martin, vous êtes vétérinaire, c'est votre spécialité, les serpents, avec les crocodiles, puisque vous dirigez la ferme aux crocodiles qui est dans la Drôme. Alors, les œufs mous, c'est vrai déjà ?
Alors oui, alors déjà, petite précision pour Quentin, tous les serpents ne pondent pas des œufs. On a parfois des serpents qui sont ce qu'on appelle vivipares, c'est-à-dire que le petit sort terminé. C'est le cas notamment de certaines vipères qui vivent en Europe du Nord, où la période pour mettre bas est relativement restreinte, et donc il faut sortir des petits tout près.
Des petits tout près, elle en fait combien à peu près ?
Alors, ça dépend
par fournée.
Par fournée, elle va en faire de 8-10 à une vingtaine. Alors pour les autres qui pondent des œufs, par exemple les boas, eux sont vivipares, donc ils font des petits tout
des
près,
petits
alors que les pitons, eux, font des œufs. La question de la consistance des œufs est intéressante. Donc quand on prend un œuf de poule, en fait, on fait cuire un œuf dur, on le casse, on a une partie avec une coquille dure, calcifié, et ensuite en dessous on a de la peau qu'on appelle les membranes coquillères.
Oui.
Voilà. Et en fait chez les serpents il n'y a que cette membrane coquillière qui est quasiment pas minéralisée et qui du coup est épaissie bien évidemment, mais qui constitue cette enveloppe qui va protéger l'embryon pendant toute la durée de son développement.
Alors du coup, est-ce que la femelle serpent, parce que c'est elle qui pond quand même.
Oui, tout à fait.
On dit pondre pour un serpent ?
Ah, on dit pondre aussi, oui, tout à fait.
Est-ce que son œuf, elle le cache bien s'il est plus fragile, non ?
Alors, ça dépend. Il y a quelques espèces de serpents, notamment certains pitons ou le cobra royal qui vont protéger leur nid, où il y a une certaine forme de comportement maternel. Les pitons même sont capables de chauffer leurs œufs en entourant. La mère va rester sur son nid, va le protéger, et de temps en temps émettre des micro-frottements, des micro-vibrations musculaires qui vont dégager de la chaleur pour justement apporter le minimum de chaleur à ses œufs. Donc c'est assez surprenant de la part d'espèces qu'on juge souvent simples, d'avoir un comportement quand même assez élaboré.
La dame piton, elle fait quoi ? Un œuf par semaine, par an, par...
Ah non, elle pond tout en une fois, et elle fait les grosses femelles pitons peuvent arriver à faire jusqu'à 45-50 œufs.
D'un coup.
Alors, une grosse maman piton, il faut imaginer que ça fait 7 mètres, 6-7 mètres. Et ça va faire des œufs qui sont de la taille d'un pamplemousse, un petit pamplemousse allongé. Donc, plus elle est grande, plus elle va pouvoir en mettre dans le ventre, et donc plus elle va faire une espèce de gros tas d'œufs qui, lorsqu'ils sortent, donc il y a cette membrane coquillère qui est un peu parcheminé, hein, ça ressemble à du parchemin, entouré de glaire, et ça fait un gros tas, puisque les œufs, quand ces glaires vont se sécher, ça fait un peu comme s'ils étaient collés entre eux. Quand on va récolter un nid, on a tendance à partir avec un gros paquet d'œufs.
Elle les couve combien de temps, dernière question ?
Elle va les couver à peu près pendant 3 mois.
Ah, c'est long.
Oui, c'est relativement long. Et puis ensuite, à l'issue de ça, les jeunes vont sortir et percer ces membranes coquillères à l'aide d'une petite excroissance qu'ils ont au bout du nez. Le serpenteau va forcer et puis il va finir par casser cette membrane.
Quelle histoire ! Samuel Martin, merci. Nous trouvons les références de votre ferme aux crocodiles sur le site des petits bateaux. Si vous avez la chance ou la malchance d'être en région parisienne, je vous invite à venir au théâtre de Belleville à 21h15, tous les lundis, jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Un spectacle intelligent et charmant, grave et rigolo en même temps vous y attend. L'autrice, les comédiens, le chorégraphe n'ont pas 30 ans, chacun, pas à eux tous quand même. Les premiers avec cette histoire d'amour entre celui surorganisé qui se terre et celle qui court, qui bouscule, fait sauter les codes comme un bouchon de champagne. Et oui, ça pétille dans la peur, dans la douleur, dans la timidité. Mais ça pétille, ça danse, ça saute, ça chante, ça se fâche parfois. Les premiers disent peut-être qu'on peut se sortir de tout avec l'amour. Et moi je vous dis que c'est bon de rire, d'être embarqué, d'être charmé, que c'est bon de retourner au théâtre. allons-y. Les premiers est une pièce écrite et mise en scène par Jeanne Lepers avec Christina Chaumont, Adrien Guiraud au Théâtre de Belleville. Tout est écrit, là encore, sur le site des Petits Bateaux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, Raphaël Rousseau, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham. L'as-tu lu, mon petit loup ? Vous pouvez désormais retrouver cette émission dans Barbatruc, l'émission de Dorothée Barba, le dimanche de 17h à 18h.